Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Jérémy Besset.
Bonjour à toutes et à tous. Pour finir en beauté 2019, qui a marqué les 150 ans de la naissance de l'écrivain français, prix Nobel de littérature en 1947, et auteur des textes aussi célèbres que Palude, Les nourritures terrestres ou encore Coridon, voire Les faux monnayeurs, notre dernière émission de l'année est donc consacrée à...
Allô, allô, c'est André Gide qui vous téléphone, qui vous parle de la Côte d'Azur.
Et ce ne sera pas la Côte d'Azur, mais en studio de RFI que nous célébrons cet anniversaire, à l'occasion duquel vient de paraître un superbe album qui nous plonge dans l'univers d'André Gide, selon son titre, publié aux éditions Flammarion et signé de notre invité Jean-Claude Perrier. Bonjour.
Bonjour, c'est Jean-Claude Perrier qui vous parle d'ici les Moulineaux.
Écrivain, journaliste, vous êtes un passionné d'André Gide, dont vous dites dès votre introduction que c'est un auteur qualifié d'impossible à suivre, à résumer, à ranger dans une case, voire un auteur infernal. Pourquoi ?
Parce qu'il a fait tellement de choses, il a rencontré tellement de gens, il a été à la croisée de tellement de chemins, il a suivi tellement de directions dans sa vie, son œuvre est tellement vaste et diverse... que je me demande comment on peut écrire une biographie de Gide. D'ailleurs, je ne m'y serais pas risqué. Et c'est pour ça que l'idée, c'était de la faire en images. Parce que les images, ça parle tout de suite. Et du coup, on a fait une sélection, si vous voulez. Mais l'univers d'André Gide, c'est presque fou.
Effectivement, votre livre, qui n'est donc pas une biographie, suit néanmoins la chronologie. Mais c'est surtout un album thématique, superbement illustré, riche d'une iconographie tout à fait exceptionnelle, 250 documents, dont certains sont inédits, et vous articulez à la croisée de grands thèmes, à commencer par la famille et ses origines, sachant que Gide a écrit l'une des phrases les plus célèbres de la littérature française, « Famille, je vous hais !» Point d'exclamation. De quelle famille vient-il, lui, qui naît le 22 novembre 1869 à Paris? Et peut-être, quelle famille s'est-il choisi en devenant adulte?
Alors déjà, la fameuse phrase, on n'en cite toujours que le début. Hein, c'est toujours « famille, je vous hais », mais après, il explique ce qu'il est dans la famille, c'est le côté refermé sur soi-même. Donc Gide est né d'une double origine protestante, il était... normand du côté maternel, c'était les Rondeaux qui étaient des bourgeois de Rouen, et il était cévenol du côté paternel, les Gides, et il dit lui-même que toute la tension de son être, toutes les contradictions à venir naissent de là, et que le seul moyen pour lui de résoudre ces contradictions, ce pôle nord et ce pôle sud, si vous voulez, c'était de devenir artiste et d'écrire. C'est dans l'écriture, c'est dans cette œuvre qu'il a pu fonder en lui-même, recoller les deux morceaux, je dirais. Ensuite, effectivement, il n'avait pas de famille au sens strictement familial du terme. Il était enfant unique, il a perdu son père assez jeune, il lui restait plus que sa mère qui est morte quand il était aussi assez jeune. Donc, si vous voulez... Étant donné ses mœurs, il s'est marié, certes, avec sa cousine Madeleine, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Donc, si vous voulez, Gide, il s'est construit sa famille. C'est ce que j'appelle une famille d'élection. Et dans la famille de Gide, il y avait des cercles pas forcément concentriques, mais en tout cas, il était au milieu de tout. Et il a réussi pendant toute sa vie à... susciter des amitiés, des admirations, des amours, des relations qui l'ont accompagné tout le temps. Et il se donnait énormément à ses proches, à ses amis, à cette famille. Et puis, il faut quand même dire qu'enfant du miracle, il a une fille, Catherine, qui était née en 1923 et qui nous a quittés, hélas, en 2013, qui était juste une fille extraordinaire, la digne fille de son père qui s'est occupée de l'œuvre de Gide depuis 1951 jusqu'à sa mort. Et sans Catherine Gide, ce livre n'existerait pas, puisque les archives, c'était elle qui les avait conservées. La fondation Catherine Gide, c'est elle qui l'a créée. Et ils encouragent les projets, les idées, les animations autour de Gide pour faire vivre cette œuvre et pas seulement toucher les royalties.
Vous le disiez à l'instant, Jean-Claude Perrier, André Gide a senti tout de suite que c'était dans l'écriture qu'il pouvait s'épanouir. Et en effet, il décide très tôt de se consacrer entièrement à la littérature. Il publie son premier texte dans une revue à 20 ans, son premier roman en 1890, Les cahiers d'André Walter, il a 21 ans. Il fait la connaissance d'Oscar Wilde aussi, dans ses années 91.
Oscar Wilde. Louis, Paul Valéry, c'est les grandes années de formation.
Exactement. Est-ce que, dès ses débuts, on peut dire que c'est un jeune écrivain relativement classique, ou déjà il se démarque par une approche singulière de la littérature, et je prends peut-être pour exemple Palude, publié en 1895.
Alors, ce qui est important et ce dont je me suis réaperçu en travaillant sur ce livre, c'est que c'est une carrière extrêmement construite. Très jeune, Gide veut entrer dans la littérature. Donc, il commence effectivement, comme tout le monde, par des petites revues, par des rencontres, il fréquente des gens. Il va chez Mallarmé, il va chez Heredia, il rencontre Maeterlinck, Verhaeren, etc. Tout le gratin, si vous voulez, de son époque post-symboliste et pré-moderne. Donc, il est là-dedans. Il crée des revues, il publie des textes, il se lie d'amitié effectivement avec des Pierre Louis ou Paul Valéry, des gens qui feront une carrière longue après. Donc, si vous voulez, il y a ça. Dès le début, il sait qu'il sera écrivain et que ce sera la littérature. Et puis, il se trouve que si vous examinez les livres de Gide un par un, quelle que soit l'étiquette qu'il leur a posée a posteriori en plus, qu'il appelle ça roman, sottise, essai, autobiographie, etc., il n'y en a pas un qui est traditionnel, formellement. Il n'y a pas un livre de Gide qui se puisse ramener à un genre existant. Je veux dire, Si le grain ne meurt, qui est pour moi sans doute son plus beau livre, qui s'est présenté comme ses mémoires, c'est une autobiographie de jeunesse qui s'arrête juste après ses fiançailles, bizarre pour une autobiographie. Palude, que vous citiez à l'instant, est un texte totalement inclassable. C'est de la poésie, c'est de la poésie en prose, c'est de la poésie en vers, c'est une méditation, c'est ce que vous voulez. Tout sauf, il a appelé ça sottise parce qu'il y a un côté grinçant humoristique qui ne faisait rire que lui d'ailleurs, ou dont lui seul a perçu l'humour. Les faux monnayeurs est un livre totalement pré-nouveau roman.
On en reparlera en effet.
C'est fou, la modernité de ce texte et sa complexité. Il n'y a pas un livre qui soit traditionnel. Et je pense que l'auteur était, lui non plus, pas très traditionnel. Toute sa vie, tous ses engagements, tous ses embardés le prouvent. C'était sans doute une tête chercheuse en permanence, et c'était aussi l'être le plus curieux qui se puisse imaginer. Il le dit, il le revendique avec une liberté de pensée totale, et c'est ce qui a guidé toute sa vie.
Pour entendre la singularité de son style, de sa langue, de son écriture, je vous propose de l'écouter, lire un des extraits de son premier grand succès, peut-être Les nourritures terrestres, en 1897, qui est un texte considéré comme l'un des sommets de l'œuvre de Gide, en tout cas certainement un hymne à la vie. Extrait.
Ce que j'ai connu de plus beau sur la terre, ah, Nathanaël, c'est ma fin. Elle a toujours été fidèle à tout ce qui toujours l'attendait. Chaque action parfaite s'accompagne de volupté. À cela tu connais que tu devais la faire. Je n'aime point ceux qui se font un mérite d'avoir péniblement œuvré. Car si c'était pénible, ils auraient mieux fait de faire autre chose. La joie que l'on y trouve est signe de l'appropriation du travail. Et la sincérité de mon plaisir, Nathanaël, m'est le plus important des guides. Je sais ce que mon corps peut désirer de volupté chaque jour. Et ce que ma tête en supporte. Et puis commencera mon sommeil. Terre et ciel ne me valent plus rien au-delà.
Voilà, la voix d'André Gide, lisant cet extrait des nourritures terrestres, publié en 1897. Un texte où on sent le plaisir à la fois qu'il a de lire, parce que c'était aussi un homme qui n'était pas avare de sa personnalité dans les médias. Il y a beaucoup d'archives sonores. Mais en même temps, on entend quelque chose de, non pas cynique, mais il y a cette espèce de distance, d'ironie dans la voix.
Je pense qu'il se prenait pas au sérieux au sens où on peut le dire. Si vous voulez, c'est l'anti-Claudel. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de pause chez Gide. Moi, ce qui me frappe, d'abord c'est émouvant cet extrait, ce qui me frappe c'est la poésie et la beauté. Et quand Gide lisait, c'est comme s'il déclamait de la poésie. D'abord il scande, parce qu'il a fait beaucoup de latin et beaucoup d'allemand. Donc, il a tendance à accentuer, ce qui n'est pas le cas en français, si vous voulez. Donc, ça donne parfois des choses un peu bizarres, des syllabes très, très forcées comme ça par rapport à d'autres. Et puis, il y a ce côté poème en prose qui est clair. Bon, les nourritures terrestres, évidemment, c'est un chef-d'œuvre. C'est un des grands livres de Gide. Il y a cette phrase fameuse « Effet de toi, Nathanaël, ah !» le plus irremplaçable des êtres. C'est une espèce de manuel de conduite, mais Gide n'aurait pas aimé ça, parce que il a jamais voulu passer pour un gourou, pour un guide spirituel. C'est toujours « jette mon livre, émancipe-t'en ». Si vous voulez, Nathanaël ne doit pas suivre les traces de Gide, il doit faire sa vie grâce à Gide. Et ça, c'est la grande leçon aussi de Gide.
Et comme vous le disiez il y a un instant, Jean-Claude Perrier, en effet, à chaque nouveau livre, un nouveau projet, un nouveau style, un nouvel univers, et pour preuve, ce texte très célèbre aussi, la symphonie pastorale, qui surprend aussi parce que c'est un autre ton, un autre univers, écrit en 1918 et qui, par la suite, passe à la postérité grâce au cinéma, adapté par Jean Delannoy avec Michel Morgan dans le rôle principal. J'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu autour du succès de ce livre.
Oui, et en plus, premier prix du premier festival de Cannes, énorme succès, et c'est sans doute le livre de Gide le plus vendu. Il n'en était pas spécialement content. Et effectivement, cette symphonie pastorale, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un roman un peu cucu. La praline.
Un grand mélodrame.
Grand mélodrame d'un pasteur qui tombe amoureux d'une pupille aveugle parce que voilà, puis elle n'est pas amoureuse de lui, etc.
Elle est amoureuse du fils.
Elle est amoureuse du fils qui va se sacrifier parce que c'est un bon chrétien. Bon, c'est une thématique qui ne nous est pas très familière. Ça a été un gros succès. C'est un peu atypique dans l'œuvre de Gide, en effet.
Souvenir. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI pour une émission spéciale aujourd'hui consacrée à l'écrivain français André Gide, né il y a 150 ans exactement en 1869, prix Nobel de littérature en 1947 et décédé le 19 février 1951 à l'âge de 81 ans. Un auteur, on l'entend depuis le début de cette émission, à l'œuvre multiple, romans, essais, théâtre et aussi récits de voyages. Voyages qui ont été nombreux puisque dès sa jeunesse, dans les années 1890, André Gide s'est rendu à de multiples reprises à l'étranger, avec parfois de très longs séjours, que ce soit en Europe bien sûr, en Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, en URSS et aussi en Afrique subsaharienne et précisément au Congo et au Tchad en 1925. André Gide.
C'est un voyage que je m'étais promis de faire depuis déjà très longtemps. Ce qui m'attirait au Congo, c'était d'abord l'inconnu. C'était un voyage presque d'aventure, personne n'allait au Congo. Et je peux dire que quand je parlais de ce projet, il n'y eut pas une personne pour approuver ce voyage. Il a fallu une longue préparation, c'est un désir que j'avais d'aller dans l'Afrique centrale, puis un certain goût d'aventure, le désir d'aller dans une terre non préparée, où je n'ai pas trouvé des hôtels tout prêts à recevoir des voyageurs. Enfin, c'était l'aventure.
L'aventure, dit André Gide pour parler de ces deux voyages dont il rapporte deux livres, Retour au Tchad et Voyage au Congo, publiés en 1927 et en 1928. Deux reportages où il raconte ce dont il a été témoin et ce sont des livres qui ont créé la polémique en France au moment de leur publication. Pourquoi Jean-Claude Perrier ?
Alors oui, reportage, pour aller voir. La démarche de Gide, c'est « je vais voir et je raconte ». Il y va sans préjugés, il est attiré par cet inconnu, comme il dit. Il avait quelque part la fibre africaine, il l'a prouvé après, parce que c'est pas un one-shot, comme on ne doit pas dire, ce voyage au Congo. Il est resté très proche d'un certain nombre de milieux africains, et par exemple, il a participé en 1947 à la création de la revue Présence africaine. Il y a un très très beau texte de Gide dans la revue Présence africaine. Il y a d'autres textes, si vous voulez, de Gide. Il est resté toujours en contact.
Oui, je fais juste une petite parenthèse, parce que vous signalez dans votre ouvrage, Jean-Claude Perrier, un échange épistolaire avec Léopold Sédar Senghor, avant qu'il devienne président. Il est en contact avec André Gide.
Bien sûr, mais Gide a connu tout le monde. Oui, Senghor lui écrit pour lui demander un service. Je crois qu'il s'agit de rencontrer quelqu'un, de le faire publier, etc. Oui, bien sûr. Donc il y avait ce tropisme, si vous voulez, africain de Gide. C'est pas forcer le trait que de le dire. Le voyage s'est très bien déroulé. C'est un voyage long. Hein. Ils sont restés plus d'un an. Donc Gide va voir. Il a pas de présupposés. Ni pour ni contre le colonialisme. Il se trouve qu'il a des amis dans l'administration coloniale, des gouverneurs, etc. Il va voir. Dans des conditions agréables, si vous voulez, il est invité, il est reçu, etc. Il va voir, il va au contact et il raconte. Et oui, ça fait scandale, parce que ça n'est pas qu'il remet en cause la colonisation en elle-même. On est en 1925. Qui remet en cause la colonisation à l'époque ? Personne. En revanche, il raconte et surtout, il stigmatise les abus de la colonisation. Le racisme, la violence, l'exploitation des ressources humaines et naturelles, etc., etc. C'est en ça que les deux, Voyage au Congo et Retour du Tchad, sont des livres modernes, novateurs, passionnants, évidemment polémiques, sauf que Gide a eu raison. Parce qu'après son retour, le gouvernement de l'époque a pris des mesures pour punir les responsables qui avaient abusé de leur pouvoir dans l'administration coloniale. Et un certain Albert Londres est parti s'engager, lui-même dans son voyage qui donnera Terre d'Ébène. Et Albert Londres, dans une lettre que j'ai citée aussi, dit précisément « Sans André Gide, j'aurais pas pu faire ce travail, j'aurais pas pu faire ce reportage. Sans André Gide qui a ouvert la porte, personne n'aurait su la situation de l'Afrique équatoriale française de l'époque. »
Sans être anticolonialiste au début, sans vouloir forcément écrire un pamphlet, en effet, il devient un écrivain engagé. Est-ce qu'il est engagé politiquement pour autant, André Gide ?
Alors là aussi, on voit que ça vient de loin. Gide n'était pas du tout un homme de Tour d'Ivoire et il y a un certain nombre de petits cailloux sur la route. Par exemple, il a été maire de son village en 1900.
C'était le
plus jeune maire de France, s'en glorifiait-il. Vous me direz, c'est peu de choses. Mais c'est quand même, s'il avait voulu rester dans sa Tour d'Ivoire, il restait dans son petit château de la Roque dans le Calvados, qui est ravissant. Pourquoi aller à la mairie sans kikiner Bon, non, ça l'avait intéressé. Ensuite, il y a le côté juré, cour d'assises. Très important, la séquestrée de Poitiers, etc. Il s'est intéressé aux faits divers, il a été tiré au sort pour être juré dans un procès d'assises, ça l'a beaucoup marqué.
Il en écrira un livre.
Absolument, parce que chez Gide, tout fait œuvre de toute façon. Même les choses qui nous paraissent à nous les plus insignifiantes, ça fait œuvre. Et puis donc, il y a cet engagement qui est son premier vrai engagement politique. Mais oui, bien sûr, dès les années 20, dès les années 25...
Même pendant la Première Guerre mondiale, on pourrait dire.
Il ne
peut pas aller sur le front, mais néanmoins, il est dans un foyer où il aide les réfugiés belges dont le pays est occupé par l'Allemagne.
Absolument, c'était sa manière à lui d'aider les gens. Toute sa vie, il a aidé, soutenu dans la plus grande discrétion. Il a envoyé des subsides, il a sauvé la vie de Jean Malaquais et de sa femme qui étaient tous les deux juifs, artistes polonais, juifs polonais. C'est Gide qui a fait exfiltrer Jean Malaquais pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui lui a payé son voyage au Mexique, qui lui a carrément sauvé la vie, si vous voulez. Là aussi, on a la correspondance Malaquais de remerciements à Gide. Il était partout, il était sur tous les fronts. Et l'engagement va aller croissant, mais aussi parce que l'époque, c'est sûr que dans les années 30, ne pas être un écrivain engagé, je vois pas très bien comment on pouvait faire autrement. D'ailleurs, tous ses amis les plus proches, Malraux au premier chef, étaient des écrivains engagés, entre guillemets. Et si vous voulez, il y a eu des grands moments dans l'engagement politique de Gide. Donc l'Afrique s'en est un. Et l'URSS, évidemment, c'est le deuxième.
Alors parlons-en de l'URSS. Comment ça se passe ?
Alors, dans les années d'avant-guerre, donc ces années 30, Gide était tout à fait frappé, persuadé, souffrant de la montée des fascismes en Europe. À l'époque, il fallait choisir son camp. C'était assez simple, j'allais dire, c'était assez manichéen. Ou bien on était du côté des fascismes, ou bien on était du côté du seul pays qui semblait pouvoir être un rempart, c'est-à-dire l'URSS de Staline. Sans être communiste, ça faut bien insister, il était sympathisant ou compagnon de route, mais pas plus que Malraux, il n'était inscrit au PC, ce qui fait qu'il y a eu des méprises après, parce qu'on l'a traité de traître, sauf qu'il n'avait jamais été engagé au Parti communiste. En plus, il le dit, il l'écrit, c'est très clair. En revanche, quand il est invité en 36 à aller voir ce que personne n'avait fait à l'époque, parce que tous ces braves gens glosaient sur l'Union soviétique, etc., mais personne n'y était vraiment allé longuement pour aller voir. Et comme Gide est prudent et se fait une confiance, pas limitée, mais quelqu'un qui doute, il part pas tout seul, il part à 6. Et il écrit, et c'est très marrant, il vaut bien au moins 6 perdus pour être sûr de ce que je vais voir. Alors, il y a une partie un peu officielle. Il n'est pas reçu par Staline. Il voit Staline à Moscou, etc. Et puis surtout, il se rend compte d'abord qu'ils sont fliqués par le KGB sans arrêt, qu'il peut rien faire, qu'il peut rien dire, tant qu'il est à Moscou dans les grandes villes. Et puis, ils prennent la poudre d'escampette, ils prennent le train, ils partent jusqu'en Crimée. Et là, c'est l'éclatement total. Gide est fou de joie, il est libre, il va au contact de la population, il voit à la fois les réalisations objectives de l'Union soviétique, mais aussi les souffrances, mais aussi la pauvreté, la misère, la répression des homosexuels, qui lui va droit au cœur évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait quand il rentre? Eh ben, il raconte. Et ça donne Retour de l'URSS. Et là, c'est énorme scandale, parce que tout le monde lui tombe sur le paletot. Ceux qui ne l'aimaient pas, la droite catholique, pour faire schématique, si vous voulez, dit « ha ha ha, regardez quel crétin, on lui avait bien dit ». Et puis ses anciens amis de gauche, et en particulier les communistes, Aragon et autres, lui tombent sur le paletot en le traitant de traître, de renégat, d'apostat, de sale type, de faire le jeu du nazisme, enfin de tout ce que vous pouvez imaginer. C'était très violent à l'époque. Mmh. Et Gide, admirable, non seulement ne cède rien, mais l'année d'après, publie Retouche à mon retour de l'URSS, avec tous les témoignages qu'il avait reçus entre-temps, les lettres, les témoignages de gens qui connaissaient l'URSS, et qui ajoutent au dossier un poids accablant. Donc c'est coup double, si vous voulez. Non seulement je persiste, je signe, mais je persiste. Donc double tombereau d'injures, sauf que qui est-ce qui a eu raison? C'est Gide, bien entendu.
Autre engagement d'André Gide, son plaidoyer envers l'homosexualité avec la publication d'un traité, au début de façon clandestine, intitulée « Corydon ». Est-ce que, selon vous, Jean-Claude Perrier, c'est un texte fondateur pour la cause?
Clairement. D'abord, c'est un livre fondateur pour Gide, parce que même s'il l'a publié au compte-gouttes, j'allais dire, c'est un long, long, long processus d'élaboration, il en a publié des exemplaires en petit nombre, il l'a fait lire à des amis, il en a pris plein la gueule, pardon, il parlait pas comme ça, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure dans l'interview. Il n'a pas un projet que ses amis n'aient désapprouvé. Bah, Corydon, vous imaginez, tout le monde lui a dit, mais vous êtes fou, gardez ça dans vos tiroirs, vous allez vous faire étriper.
Oui, parce qu'on est en quelle année là?
21.
Oui.
21 le processus et 24 la vraie publication. Et tout le monde lui dit, mais vous allez au casse-pipe, c'est pas possible, faites vos affaires, mais ne vous en vantez pas. Mais Gide ne pouvait pas faire ça. C'est constitutif de sa nature, sa sexualité, c'est constitutif de son œuvre, et donc il n'était pas question pour lui ni de la passer sous silence, ni de la déguiser, ni de se taire, si vous voulez. Et donc, c'est pas un militant. Je dis à un moment qu'il aurait été complètement stupéfait de voir les Gay Pride et le mariage pour tous, n'empêche que, quelque part, tout ça est un peu grâce à lui.
Alors revenons à l'écrivain André Gide, qui a littérairement marqué son empreinte la littérature française. Par exemple, on l'évoquait au début de cette émission, Les Faux Monnayeurs et le journal des Faux Monnayeurs, qui préfigure en effet le mouvement du nouveau roman qui va naître en France à la fin des années 50. On peut dire que c'est lui un peu l'initiateur de cette écriture qui veut s'affranchir du roman classique.
Bien sûr, c'est un livre novateur, c'est un livre moderne, c'est un livre qui joue avec la forme littéraire. C'est son seul livre estampillé roman. Et à la limite, c'est peut-être un des moins romanesques. À la limite, la Symphonie pastorale ou l'Immoraliste sont plus romanesques que Les Faux Monnayeurs. Parce que il y a multitude de personnages, plein d'histoires imbriquées, et effectivement, il y a toujours dans les livres de Gide une partie journal ou faux journal. Donc effectivement, là, c'est Édouard, le héros, qui tient son journal, et puis Gide, parallèlement, publiera le journal des Faux Monnayeurs, le journal de comment j'ai écrit Les Faux Monnayeurs au moment où j'écrivais Les Faux Monnayeurs. Donc il y a un jeu de mise en abîme comme ça, Il n'y a pas vraiment d'intrigue, ça part un peu dans tous les sens. C'était vrai des Caves du Vatican, là aussi c'est un roman extrêmement pré-moderne ou pré-nouveau roman, si vous voulez.
Très étrange en tout cas.
Avec des tons différents, avec des personnages, avec un mélange de théâtre, de jeu, de journal, de notes. C'est très très étonnant.
En tout cas, je ne sais pas si c'est à ce titre, à cet avant-gardisme pour lequel il est récompensé, mais en 1947, il reçoit donc ce prix Nobel de littérature. Est-ce que selon vous, Jean-Claude Perrier, ça a été une surprise ou une consécration qu'il attendait ?
Consécration, évidemment, qu'il attendait, je crois pas. C'était moins médiatisé à l'époque que maintenant, il n'y avait pas toutes ces listes qui circulent, etc. Et puis, c'était pas forcément pour un côté conscience morale, quoi que Gide, on peut le qualifier comme ça, si vous voulez, mais ça l'aurait mis mal à l'aise. D'ailleurs, dans son discours de réception, il n'est pas allé à Stockholm, il était un peu âgé et souffrant à ce moment-là, mais il envoie un très très beau discours de réflexion, et là, il plaide juste pour la liberté d'expression, on est en 47, hein, en plein goulag, il plaide pour la liberté d'expression, on est encore sous Staline, il plaide pour la liberté d'expression, pour la curiosité d'esprit, etc., et il dédie d'une certaine façon son prix Nobel à tous les écrivains souffrant, emprisonnés, empêchés de s'exprimer, d'écrire et de vivre librement. Donc, en cela, si vous voulez, il avait amplement mérité ce prix Nobel. Je suis pas sûr que ça l'ait surpris. Ça lui a fait plaisir. Comme son docteur honoris causa de l'université d'Oxford, c'est pareil, la même année. Il en était très heureux, très fier. Il était très content. Il a acheté une maison à sa fille avec les sous et une voiture à Elisabeth von Reichelberg avec les sous aussi. Donc voilà. Mais il en a pas fait tant que ça. C'est un prix Nobel un peu tardif aussi parce qu'il est mort en 51, vous le rappeliez. Donc 47, si vous voulez, l'œuvre de Gide est terminée. Il a écrit son dernier très très beau livre qui est Thésée, qui est de 46, qui est un livre testament absolument magnifique. Après moi, les hommes naîtront plus libres et heureux, j'ai fait ma ville, etc. Où il se met dans la peau de Thésée qui, au moment de mourir, fait son bilan, son examen de conscience. C'est un très très beau livre, magnifique, court livre, très beau livre. 47, c'est un peu tardif, si vous voulez. À la limite, il aurait fallu le donner après le retour de l'URSS. Si les jurés de l'époque avaient eu le cran de le faire, il aurait fallu lui donner juste avant la guerre, 38.
André Gide décède en 1951 et l'année suivante, toute son œuvre est inscrite par le Vatican à l'index des livres interdits. Toute l'œuvre. Pourquoi Jean-Claude Perrier ?
Ça sentait le fagot. Gide sentait le fagot. Oh, vous savez, à l'époque, je crois que c'était assez facile. On m'a dit que ça n'existait plus, l'index des œuvres à brûler par le Vatican. Bah, Touche et Gide devaient hérisser le poil à l'époque. Gide était impossible à ramener dans une quelconque religion. Plein de ses amis ont essayé, notamment les catholiques, qui ont essayé de le convertir. Ça a raté. Il a jamais pu être parfaitement à l'aise avec Claudel et Mauriac pour ces raisons-là. Si vous voulez, Gide, c'est l'esprit libre. Non seulement libre, mais qui va jusqu'au bout des choses. Même s'il sait que ça va lui tomber dessus, même s'il sait qu'il va être critiqué, même s'il sait qu'il va se mettre lui-même à l'index d'un certain nombre d'institutions, il s'en fiche. Il y va. C'est pas un foudre de guerre, c'est pas un provocateur. Mais il va voir, il raconte en toute honnêteté. Tant pis pour les conséquences, il les assume.
Merci beaucoup Jean-Claude Perrier d'être venu partager votre passion pour André Gide avec nous en studio et puis l'occasion de feuilleter ce magnifique ouvrage que vous publiez aux éditions Flammarion sous le titre L'univers d'André Gide.
Alors sur la couverture, c'est la seule photo où Gide rigole, mais il se fend la pêche et c'est au Sénégal, à la fin des années 30. Il est en costume très élégant, très chic, il court dans la pampa sénégalaise et il se fend la pêche. Et là, il est heureux et il écrit une lettre à Martin Dugard où il dit « Je vais glorieusement bien ».
C'est vrai. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Les éditions